Bonjour à tous. Est-ce que l'église de Créteil va bien? C'est toujours une joie pour moi de vous voir et d'être ici. Combien ne m'ont jamais entendu prêcher? Levez votre main. D'accord. Oui, ça, dis donc, à chaque fois il y a du monde, c'est incroyable. Je suis tellement content d'être ici avec vous. Ce matin, mon nom est Jonathan Valbon et je suis un jeune qui aime Dieu et qui est un ami divin. Et pendant des années aussi, j'ai été pasteur, j'ai exercé dans l'église de Montfermeil et Créteil, c'est devenu un petit peu une base de repli, une base dans laquelle on vient s'édifier ensemble et je suis super content et touché d'être ici. Sans plus tarder, on va aller dans la parole de Dieu. Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi, s'il vous plaît, dans Luc, verset 11. Combien ont faim de la parole de Dieu ce matin? Combien veulent toucher par Dieu? Et c'est vraiment mon cœur et mon désir que Dieu puisse nous parler. Alléluia. Je lis pour vous. Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi ma part d'héritage, celle qui doit me revenir un jour. » Et le père fit le partage de ses biens entre ses fils. Et son fils partit dans un pays lointain en dissipant son bien en vivant dans la débauche. Et là, vous connaissez l'histoire et le fils va dilapider tout l'héritage du père en faisant les 400 coups, etc. Et alors qu'il était dans la puanteur, je dirais des cochons, il était quasiment exploité en esclavage, il se rappela de la maison de son père et il décide de retourner vers le père. Et quand le père le voit, il le saute à son cou, il l'embrasse et il fait une fête. Et au verset 23, il dit « Amenez le veau que nous avons engraissé et tuons-le. » Mangeons, festoyons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, il était mort et il est revenu à la vie. Ils commencèrent à festoyer dans la joie et pendant ce temps, le fils aîné, celui qui était resté à la maison, travaillait dans les champs. Et sur le chemin de retour, quand il arriva près de la maison, il entendait de la musique et des danses et il appela un des serviteurs et il demanda ce qui se passait. Et le garçon lui répondit, c'est ton frère, il est de retour. Et ton père a tué le veau gras en son honneur, parce qu'il est retrouvé sain et sauf. Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusa de franchir le seuil de la maison, et son père l'invita à entrer. Mais il répondit, « Cela fait tant d'années, papa, que je suis à ton service. Jamais j'ai désobéi à un de tes ordres. Et pas une seule fois tu m'as donné, ne serait-ce qu'un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand celui-là, ton fils, qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu as tué le veau gras. Mon enfant, lui dit le père, tu es constamment avec moi et tous mes biens sont à toi. Mais il fallait bien faire une fête pour nous réjouir, puisque ton frère que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et le voici retrouvé. Amen. » Le titre de mon message ce matin est « Lorsque nous sommes prêts à mourir pour un peu de reconnaissance ». Mes amis, il existe quelque chose pour laquelle beaucoup, beaucoup de personnes sont prêtes à faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de sacrifices. On est prêt à dépenser notre temps, notre argent pour quelque chose d'extrêmement précieux. Les gens se battent pour ce trésor. Et ce trésor, ce matin, je vais vous le dire, c'est la reconnaissance. On est prêt à faire énormément de choses pour avoir un petit peu de reconnaissance. Et je ne sais pas quelle est votre éducation, je ne sais pas dans quel foyer vous avez grandi, mais souvent, c'est comme si notre entourage, des fois, n'a pas rempli ce besoin profondément ancré en nous d'avoir de la reconnaissance. Et on cherche la reconnaissance, on veut la reconnaissance, et on a besoin, c'est un besoin inaltérable en nous. Et surtout les gars. Si notre père biologique n'a pas répondu ce besoin vital en nous, il est fort possible qu'on tombe dans des espèces de mécanismes humains, des mécanismes comportementaux qui fait qu'on veut absolument être reconnu. Et ce qui est dangereux, c'est que nous développons cet état d'esprit avec Dieu. Vous êtes là? On a soif, on veut la reconnaissance auprès de Dieu. Et comment on va s'y prendre? Ce matin, je vais juste élucider un petit peu les structures et comment des fois on réagit. Et j'espère que Dieu va vous toucher par ce message. La chose que l'on veut faire quand on a besoin de valorisation de reconnaissance, on va essayer d'impressionner Dieu. Et comme on essaie d'impressionner Dieu, en fait, on essaie de faire toutes sortes de bonnes choses. On fait, je dirais, on tombe dans une espèce de course que j'intitule « Tout ce que nous sommes capables de faire pour impressionner Dieu » au lieu de nous laisser impressionner par lui. Vous êtes là ? C'est comme si, plutôt de réaliser son amour que lui a pour nous, on tombe dans une course effrénée. Je vais faire plein de choses, Seigneur, pour t'impressionner, toi. Mais lui, il voulait plutôt qu'à la base, nous réalisions ce que lui fait pour nous. Combien il nous aime, combien il a soif de nous révéler constamment son amour. Et cette phrase-là, cette attitude-là est capturée dans les phrases du fils prodigue. Voici ce qu'il dit. Il dit, ça fait tant d'années que je suis à ton service. J'ai jamais désobéi à un désordre. Autrement dit, j'ai tellement fait pour toi, j'ai essayé de t'impressionner. Regarde, je suis quelqu'un de bon. Si vous cherchez à prouver à Dieu votre amour, vous allez perdre de la vision de son amour pour vous. Si vous cherchez à prouver constamment à Dieu votre amour, vous allez avoir des attentes non répondues vis-à-vis de lui. Le fils aîné, il était en colère. Il avait de la colère, de la rage. Il trouve même que son père, il est injuste. Parce que lui, s'est gardé pur. Il n'a jamais couché avec des filles. Il n'a jamais fait les 400 coups. Il s'est toujours maintenu droit, fidèle, bon. Et souvent, quand on lit cette histoire, on a l'impression que c'est une histoire, je dirais, lisse, très éloignée de nos réalités. Mais il n'en est rien, mes amis. Alors, juste pour vous le paraphraser, juste pour essayer de la rendre un petit peu plus vivide pour vous, j'ai tenté de le paraphraser. Voici ce qu'en fait le fils prodigue voulait dire. Tu m'as jamais donné ceci ou cela, papa. Pourtant, regarde ce que j'ai fait tout pour toi. Regarde à quel point je travaille sans relâche. J'ai passé toute mon enfance à te faire plaisir. J'ai passé des journées, des années sous un soleil de plomb. Je ne buvais même pas un verre d'eau. J'étais un bon garçon et tu ne l'as jamais vu. Je voulais que tu sois fier de moi, papa. Je voulais que tu me reconnaisses comme quelqu'un capable de te satisfaire. J'aurais voulu seulement un peu de reconnaissance de toi. Mais toi, tu ne m'as jamais rien donné, jamais rien du tout, même pas un chevreau pour moi et mes amis. C'est comme si tu ne veux pas que je sois content, que je me réjouisse avec mes potes. Avec toi, c'est toujours le travail, le travail, le travail. Je ne suis pas un feignant, papa. Tout ce que tu m'as demandé de faire, je l'ai fait. Mais lorsque mon frère est parti, moi, je suis resté seul avec toi. Lui, il s'est barré, il s'est cassé, mais moi, j'étais là. C'est injuste de se battre pour quelque chose qu'on n'obtient pas. Je veux dire, s'il y a quelqu'un qui te sert dans cette maison, c'est bien moi. T'as pas besoin de t'occuper de la moisson dans les champs parce que je m'en occupe. Tout ton business, c'est moi qui le gère. Et franchement, je te demande rien. C'est dégoûtant que les autres qui n'ont jamais rien fait dans leur vie, ceux qui ne créent que des problèmes autour d'eux, ceux-là qui viennent au dernier moment foutre leurs pieds sous la table, je comprends pas que ceux-là qui n'ont pas trimé, ceux-là, ils reçoivent tous les honneurs de ton amour. Franchement, c'est pas juste. Et pourquoi tu les bénis, eux et pas moi ? Pourquoi tu m'ignores ainsi ? Faut pas me dire après, papa, que tu fais pas de préférence. C'est super injuste. Tu récompenses et tu honores les moins spirituels que moi. Moi, je te demandais rien, si ce n'est un peu de reconnaissance. Je veux dire, je veux juste que tu sois fier. Je veux que tu m'ignores pas, papa. Pourquoi les autres sont bénis et pas moi ? Pourquoi est-ce que tu m'ignores ainsi ? C'est dégoûtant de bénir et de gracier le pécheur qui pue le cochon plutôt que de bénir et de récompenser le juste qui sent la sueur parce qu'il est brûlé par le travail. Souvent, on cherche à impressionner Dieu. On essaye de montrer à Dieu combien on l'aime. Et vous savez quoi ? Vous pouvez vous investir dans plein de services dans l'église. Vous pouvez faire plein de choses. Plein de choses. Pour avoir cette reconnaissance. Mais si la base de votre motivation derrière n'est pas la véritable relation et connexion que vous avez avec Dieu, vous allez passer aux côtés de l'essentiel. Comprenez-moi, je crois qu'avoir un cœur de servir l'Église, etc., je crois que c'est extraordinaire. Mais faites-le pas pour mériter la louange des hommes. Si la base de votre motivation que vous portez à Dieu, c'est simplement de la reconnaissance. Vous allez exiger un chèque de lui. Seigneur, tu ne m'as pas payé ton chèque ce mois-ci. Vous allez dire quoi? Vous allez dire, je suis un bon chrétien. Et Seigneur, tu dois me bénir. Alléluia, regarde ma fidélité au Éternel. Je passe du temps à te bénir, à te louer. Tous les dimanches matin, je vais à l'église et je ne manque pas une réunion de prière. Donc j'exige, Seigneur, ton onction. Alléluia. C'est exactement ce qu'il a fait. Il était frustré parce qu'il a... Vous comprenez? Il voulait quelque chose vis-à-vis de son père, mais il ne le disait pas. Mais c'était enfoui en lui. Vous pouvez être un très bon serviteur, servir dans l'église, rendre service aux gens, et les gens vont vous apprécier pour tout ce que vous êtes capable de faire. Vous êtes quelqu'un de doué, quelqu'un de talentueux, alors que Dieu vous aime pour qui vous êtes. Pas pour ce que vous êtes capable de faire. On aime souvent la reconnaissance, on aime ça, on est prêt à se battre pour ça. À chaque fois qu'on fait quelque chose, on aime nous dire que c'est bien. Ah oh, oui, c'est comme une petite drogue en nous. Ah, oh, ça fait du bien. Non, mais t'as vu. Et souvent, on essaye de montrer aux gens dans l'église que je suis spirituel. Mais quand les gens dans l'église le savent, je veux le montrer à Dieu. Seigneur, n'oublie pas que je suis quelqu'un de bien. Et franchement, si tous les gens étaient aussi humbles que moi, il y aurait moins de problèmes dans l'église. Une fois, on pose la question à un jeune enfant, on lui dit « C'est quoi un orgueilleux ?» Il dit « C'est quelqu'un qui se croit meilleur que moi. » Et tout d'un coup, le pasteur, il lui dit « Mais qui est-ce qui t'a appris ça ?»« C'est mon père. » On essaye d'impressionner Dieu. Vous savez quoi ? Dieu, il n'a pas besoin d'être impressionné par vous. Il connaît tout de vous. Il est déjà fier de vous. Qu'est-ce que vous allez faire ? Est-ce que vous allez continuer dans cette soif, effrénée dans cette course, « Seigneur, regarde combien je suis bon » ou est-ce que vous allez décider de vous arrêter et de regarder plutôt à son amour et tout ce qu'il a fait pour vous? Et la deuxième chose dans ce comportement, c'est qu'on se compare aux autres. Regardez, le fils aîné, voici ce qu'il dit. « Mais quand celui-là qui revient, ton fils, il ne dit pas mon frère, il dit ton fils qui a mangé ta fortune. » En fait, il dit « Lui qui n'a jamais rien fait de bon !» Lui, le mauvais, le scélérat, lui qui a mangé ta fortune avec des prostituées, pour lui, tu le vaugras. Et il y a beaucoup de chrétiens qui se sentent obligés de descendre les autres, les moins spirituels, pour essayer de mériter Dieu en disant « Seigneur, franchement, est-ce que vous me suivez ?» Alors, mais peut-être que vous ne le dites pas comme ça. Non, c'est de façon plus... « Seigneur, je ne suis pas comme tous ces tièdes, ô Éternel. » C'est tiède que tu vomiras de ta bouche. Alléluia. Moi, je viens, je jeûne, je prie. Je donne mon chèque et ma dîme. Tu vois cette sœur, elle médite, Seigneur. Casse-lui une jambe. Non. Hein, on se compare. Non, mais toute blague mise à part, tu sais, c'est quand tu vois quelqu'un de moins spirituel, tu dis, ouais, lui, il a besoin encore de se rapprocher de Dieu. Mais Seigneur, moi... Oh là, moi, franchement, si tu avais des chrétiens comme moi dans le ciel, il y aurait beaucoup moins de problèmes, quoi. Même à Créteil, si enfin tout le monde était comme moi. Et on se compare aux autres. Quand on regarde le fils aîné, jamais on n'aurait regardé toute la profonde frustration qu'il avait dans son cœur depuis des années. Et vous savez ce qui a fait réagir ? Boum ! C'est le fait que son père, et comprenez dans cette pensée, dans cette parabole, c'est Jésus qui la raconte et Jésus a voulu expliquer comment Dieu était une figure paternelle et comment Dieu aimait tant les pécheurs que ceux qui étaient proches, restés dans la maison et proches de lui. Et lorsque Jésus explique cela, il personnifie l'amour du Père dans cette parabole. Et quand on regarde cette pensée, cette parabole, le Père décide de bénir celui qu'il ne mérite pas et ça fait réagir. Celui qui se sentait juste. C'est incroyable. Jamais on l'aurait remarqué jusqu'au moment où le Père décide de bénir quelqu'un qui est mauvais. Et il y a toute cette réaction qui se dévoile. Et vous savez quoi? Le Père, il est profondément choqué. Et la Bible nous dit que le Père, il est sorti alors qu'il y avait de la fête, il aurait pu dire, très bien, mon fils aîné, tant pis, il comprend rien du tout. Non, le père, il aime autant le fils aîné que le fils pécheur. Il sort, il va vers son fils aîné, il lui dit, fils, pourquoi est-ce que t'es coupé? Viens. Et là, le fils aîné, il était en rage, il dit, mais non, mais regarde-moi tout ce que j'ai fait, regarde-moi. Et là, c'est comme si le père lui rappelle en fait tout son héritage. Il lui dit, mais écoute, tout ce que j'ai est à moi, tout ce que j'ai est à toi. Je suis désolé. Ce que le père, en fait, il est venu le voir, il a dit, je suis désolé que tu te sentes ainsi, mon fils. Tu sais quoi, je suis blessé que tu as ces sentiments dans ton cœur qui te font du mal. Je ne sais pas quoi faire. Je veux juste te dire que je t'aime. Je veux juste te dire aussi que tu sais quoi, tu n'as pas besoin de... Toi aussi, tu as un héritage, il n'a pas du tout dit ça. Il a dit, tu sais quoi, tout ce que j'ai est à toi. Je ne peux pas te donner plus, mon fils, parce que tout ce que j'ai est à toi. Va de partout, dans les champs, dans les moissons, tout, tu commandes tout, tu as tout pour toi, fils. Mais la chose, la principale que tu as, c'est que tu as accès à mon cœur. Reviens. Et c'est comme si l'appel de Dieu s'est manifesté. Reviens, reviens, toi qui es éloigné. Et voici la grande leçon, mes amis. Vous savez quoi? C'est que le fils aîné avait un héritage, mais il était devenu un étranger dans la maison de son père. Le fils aîné avait toutes les richesses de son père, mais il n'avait aucune communion avec lui. Écoutez bien ceci, à trop vouloir impressionner son père de tout ce qu'il était capable de faire, il n'avait plus aucune relation et aucune communion avec lui. Si vous vous perdez dans les champs, toujours dans l'activité effrénée et que vous n'allez pas dans la communion, dans le cœur de Dieu, au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va être coupé. À trop vouloir prouver son amour, à toujours essayer de montrer « Papa, regarde comme je suis bon », il a complètement oublié son identité de fils. Il était un fils et il l'a oublié. Mes amis, vous êtes des filles et des fils du roi. Ne l'oubliez jamais. Et vous savez quoi? Vous n'avez rien fait pour avoir ce statut. C'est Jésus qui a tout accompli à la croix. Alléluia! Dans un mois, je vais devenir papa. Et je me pose tout un tas de questions. Mon Dieu, comment je vais faire? Est-ce que je vais être un bon père et tout? Et tu vois, des questions qui te traumatisent, existentielles. Et déjà, ma femme me rappelle tout ce que je dois dépenser pour un petit bout qui n'est même pas encore arrivé. Dieu merci pour la CAF qui te donne une prime de naissance. Ça t'aide un peu. Et le bébé, le ci et le ça, et les couches et machin. Déjà, t'es traumatisé, rien qu'à l'idée qu'il arrive. Mais ce qui est incroyable, c'est que quand il va venir, il a besoin de rien. Enfin, je veux dire, parce que je m'occupe de tout. C'est surtout ça. Tu sais, il va venir, il va pleurer, puis toute l'attention, c'est moi qui m'en occupe. Ses études, machin, pendant les 25 premières années, les 25 prochaines années, j'ai le carnet de chèques sorti. C'est mon fils, il n'a rien à faire. Qu'il serve Dieu ou qu'il ne serve pas Dieu, je l'aimerai toujours. Qu'il soit bon, qu'il soit mauvais, je l'aimerai toujours. Il n'y a rien de ce qu'il pourra faire qui enlèvera mon amour de père vis-à-vis de lui. Il n'est pas encore là, mais je l'aime déjà. Qu'il soit un bon serviteur, qu'il soit mauvais, qu'il soit bon, jamais ça changera au fait que ce soit mon fils. Et entre, mes amis, entre la communion et entre l'activité dans vos vies, il faut choisir. Chaque matin, quand vous posez le pied à terre, il faut que tu choisisses, est-ce que tu vas être dans la communion ou dans l'activité? Il y a quelques mois de cela, mon épouse, qui n'est pas là, qui est actuellement, j'aurais bien voulu qu'elle soit là la prochaine fois. En tout cas, mon épouse, ça commence avec un avocat. J'ai un ami avocat à qui j'ai parlé du Seigneur, qui est super touché, qui en veut en savoir plus de Dieu. Un super avocat dans la région parisienne. Quand un avocat, c'est toujours bien d'avoir ce type de relation dans ton portefeuille, sa carte de visite et tout. Et là, je lui parle de Dieu, il est touché et tout. Et je lui donne rendez-vous dans un restaurant sur Paris. Et puis, on se donne rendez-vous à 13h. Et tu sais, les avocats, c'est des gens, ils ont 15 rendez-vous la journée, ils peuvent oublier facilement. Et je me rends le jour J à telle heure, tel rendez-vous, et l'avocat n'est pas là. Ah, je dis, ah, c'est dommage. Sauf que l'endroit où je suis, j'ai mis déjà une heure pour venir, j'ai quitté le bureau, et l'endroit où je suis est à quelques centaines de mètres du bureau de mon épouse, là où elle travaille. J'ai dit, chouette, je vais profiter de ce moment, et puis je vais aller la rejoindre. Puis je suis allé la rejoindre, et... Comme je ne fais jamais ça, ça a eu un effet dans le cœur de mon épouse, mais un effet. Waouh ! Elle est sortie et elle m'a vu et je dis, chérie, je suis là. Elle était limite au bord des larmes. Chérie, t'es venue pour moi. Je dis, ben, je suis là. C'est l'essentiel. Ma chérie, je suis venue ici pour avoir une communion avec toi. Et elle me dit, mon cœur, franchement, tu me touches trop et tout. Et là, c'était... Mais on sortait, je lui ai dit, écoute, viens, on marche un peu. Et je te promets, on était en plein cœur de Paris, à côté des immeubles haussmanniens. Il y avait un soleil de Milan. Et ma femme, elle marchait à mes côtés. J'étais comme un prince, tu vois. Je marchais comme ça et elle était contente. Et dans ma tête, je dis, Jo, tu marques des points pour l'année, là. Tu vois, là. Elle marchait et je te promets, elle pose sa tête contre moi et elle me dit, mon cœur, tu peux pas savoir comme ça me fait plaisir, t'es venu, mais waouh, chérie, mais t'as fait comment? T'es venu en voiture, t'es venu en métro? Je dis, non, en fait, j'ai quitté, j'ai fait une heure de métro, j'ai vu, mon cœur, waouh, chérie, non, mais franchement, et les larmes aux yeux. Et il y a un moment, on passe devant le restaurant où j'avais rendez-vous avec l'avocat, je fais, chérie, on rentre là, allez, j'ai réservé pour deux personnes. Valbon, s'il vous plaît, la table pour deux. Oh, ma femme, elle était au ciel. On s'assoit et tout. Et elle était comme ça. C'est les yeux doux, là. Et je bois tendrement mon apéritif. Et je parle et je dis, chérie, tu sais quoi, t'es la seule à mes yeux. Je t'aime, je voulais te le dire. Regarde, ma présence ici est un témoignage. Et pendant que je bois, je vois, il est 13h15 et je vois l'avocat arriver. Et pendant que je bois, je vois l'avocat, un problème est en train de venir. Et je regarde à nouveau mon épouse et je vois ses yeux admiratifs sur moi. Et je fais, Jo, t'as un problème. J'ai pas eu le temps de lui dire, j'ai pas eu le temps de confesser mon péché, de me repentir, que l'avocat était déjà à notre table. Bonjour et tout. Et ma femme, elle comprenait plus et tout. Je fais, chérie, nous avons un invité aujourd'hui, venez, asseyez-vous, monsieur et tout. Et rien, j'ai pas eu le temps. Alors elle a avalé sa salive. Après, on s'est expliqué. J'ai dû faire au moins 10 restaurants avant de me faire pardonner celui-ci. Elle était choquée. Vous savez pourquoi? Après, on a eu une discussion, forcément. Mais ce qui l'a dérangée, c'est que je lui ai fait croire qu'elle avait de l'exclusivité. Vous me suivez? Toutes les femmes comprennent ça. C'est que je lui avais fait croire qu'elle avait la première place, or que moi, j'avais profité d'une situation. Si je veux dire, j'étais fier de moi, j'ai rentabilisé mon temps, etc., etc. Et souvent, avec Dieu, on fait comme ça. On lui fait croire qu'il a la première place, qu'il a la communion dans notre cœur, sauf que ça n'est pas réellement ainsi. Est-ce que vous me suivez? C'est comme si on est bouffé par nos activités. Mais surtout, nos activités, elles nous bouffent parce qu'on veut mériter par cela l'amour de Dieu. Si vous communiez avec le Père, votre tête contre son cœur, combien il vous aime, vous n'aurez plus aucun problème à bénir les autres parce que vous-même, vous savez que Dieu vous aime. Est-ce que vous êtes là? Vous communiez avec lui, vous entendez son cœur qui bat pour vous. Et lorsque vous êtes sûr de cet amour profondément pour vous, vous n'avez pas de problème à ce qu'il bénisse les autres. Lorsque vous ne connaissez pas l'amour du Père pour vous et que Dieu bénit les autres, là vous avez un problème. Vous me suivez? C'est simple. Où est-ce que vous en êtes? Le fils aîné, avait un trésor qu'il n'ouvrait jamais. Et moi, je vous pose une question. De vous à moi et de moi à vous, de façon très très honnête ce matin. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on tombe dans ces schémas où on essaie de montrer tout notre amour à Dieu, cette activité, où on essaie de faire plein de choses pour essayer de prouver à notre Père que nous l'aimons? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on essaye de l'impressionner? Ne me dites pas, je fais ça pour le Seigneur. C'est pas vrai, il ne vous demande pas la moitié de ce que vous faites. Pourquoi? Je vous demande de sortir un papier, un stylo. Je vais vous demander de sortir tout le monde, un papier, un stylo, et je vais vous demander de marquer ceci. Sortez votre portable. Sortez quelque chose où vous allez pouvoir marquer ce que je vais vous dire. Et je veux que vous restez avec ça pendant toute votre vie. Enfermez-le dans un coffre. Marquez ça. Encadrez-le à la maison. Marquez-le quelque part. Prends un stylo, marque-le sur ta peau. Tu l'écriras à la maison. Et vous allez marquer ça. Aucune idée. Aucune idée de l'amour de Dieu. Écoutez bien ceci. Nous faisons beaucoup de choses, tant de choses, pour essayer de capter son attention. Mais lorsque nous agissons ainsi, c'est parce que nous n'avons aucune idée de l'amour de Dieu à notre égard. Qu'est-ce que Dieu dit sur vous ? Hey, je vous pose la question. Qu'est-ce que Dieu dit sur toi ? Qu'est-ce que Dieu dit sur toi ? Qu'est-ce que Dieu dit tout sur toi, Scott ? Qu'est-ce que Dieu dit sur vous ? Est-ce que vous avez connaissance de cela ? Non, mais franchement, est-ce que vous savez dans votre cœur profondément ? Est-ce que vous savez ce que Dieu dit sur vous ? Souvent, on sait très bien ce que Dieu dit pour les autres, mais pas réellement ce qu'il dit pour nous. On est capable d'évangéliser, d'amener tout le monde à Christ. On indique Christ est le chemin, mais nous-mêmes, on ne s'y rend plus. Qu'est-ce que Dieu dit sur vous ? Est-ce que vous entendez son cœur ? Je suis sa fille, je suis son fils, je sais qu'il m'aime. Vous savez quoi ? Quand vous savez ce que Dieu dit sur vous, vous êtes devant son trône. Tous les anges sont là. Les archanges, il y a toute l'acclamation. Vous êtes devant le roi des rois. Il vous regarde. Il fixe ses yeux sur vous. Et il proclame son identité sur vous. Et votre vie au complet est changée. Et j'aimerais vous dire encore quelque chose de plus. C'est que les problèmes tout autour de vous disparaissent. Ce qui vous compliquait la vie avant ne vous complique plus tellement la vie. Tous les problèmes autour de vous n'en sont plus vraiment des problèmes. Parce que vous êtes reconcentré complètement sur l'essentiel. Et vous n'en avez rien à faire de tout. Parce que la seule chose qui compte à ce moment-là, c'est que Dieu vous aime. C'est que vous vous sentez aimé de lui. Vous n'êtes pas en train de dire « Seigneur, moi je t'aime ». Non. Vous vous sentez aimé de Dieu. Ça va peut-être être choquant ce que je vais vous dire. Mais toutes mes heures de prière que j'ai passées devant Dieu n'ont jamais transformé mon caractère. Jamais. Et pourtant, j'ai fait des jeûnes, Ça m'a aidé. Mais la chose qui a changé profondément mon être intérieur, c'est 5 minutes où j'ai découvert que Dieu m'aimait. Toutes les heures de prière, ça, c'est ce que vous, vous faites pour Dieu. Mais quand vous réalisez ce que lui fait pour vous, ça explose ton crâne. Tu kiffes grave l'aimer, comme disent les jeunes. Il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous me suivez ? Qu'est-ce que vous voulez vraiment ? Et je termine avec ceci. Au fait, j'ai combien de temps là ? On s'arrête quand, Scott ? Dis-moi. Non, parce que pour les 3 prochaines heures, on est parti. Hein. Si vous découvrez l'amour de Dieu, qui il est, vous allez comprendre qui vous êtes. Le fils prodigue, il rentre, il est souillé, puant, sale, pauvre. Et Dieu le restaure complètement. Le fils aîné, il est éloigné de la maison. Il a oublié son identité de fils et le père le restaure. Romains 8, verset 15, « En effet, c'est l'apôtre Paul qui déclare cela, en effet, vous avez reçu un esprit d'adoption qui ne fait pas de vous des esclaves ou juste des serviteurs et qui vous ramène dans la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils et des filles. Dites avec moi, fils et filles. » Oui, je pensais que vous alliez dire un petit peu plus fort. « Fils de Dieu. » Et par cet esprit, nous crions « Abba Père », c'est-à-dire « Papa, mon papa ». L'Esprit Saint même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et puisque nous sommes ses enfants, nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ. nous avons le même accès à la présence de Dieu, le roi des rois. Alléluia! Yes! Il y a un roi qui vous accueille dans sa présence. Un roi qui est dans le ciel, qui peut toutes choses. Et ce roi est votre père. Mais ça, c'est... Si ça pénètre dans votre cortex cérébral, ça change votre vie pour toujours. Ça change votre vie. Ça vous met le feu, ça. N'oubliez jamais qu'avant d'être un serviteur, vous êtes un fils et une fille. Ne soyez pas serviteur pour mériter votre statut de fils ou de fille. Le fils aîné, c'est exactement ça. Il faisait plein de choses pour impressionner son père. Et il a oublié que c'était un fils avant toute chose. C'était un très bon serviteur, mais ce n'était plus un fils. Un serviteur, lorsqu'il fait quelque chose, il demande un chèque à la fin du mois. Il demande un salaire, il demande quelque chose. Si vous servez Dieu avec ce principe, vous allez exiger qu'il vous bénisse. Vous allez demander à ce qu'il vous donne quelque chose. Vous allez lui réclamer les bénédictions parce que vous y avez droit. Et s'il ne le fait pas, il a un grave problème. Vous allez exiger de Dieu alors que vous n'avez rien à exiger. C'est ça le truc. C'est que vous n'avez rien à exiger. Dieu vous l'a donné par Jésus. C'est Jésus qui a remporté la médaille. Vous, tout ce que vous avez à faire, c'est le droit de la porter et dire « Je suis champion du monde avec Jésus ». Vous n'avez pas besoin de vous battre. Vous n'avez pas besoin d'essayer de remporter. C'est ça la grâce que Christ nous a accordée. Alléluia! Savez-vous combien il y a de croyants de la Nouvelle Alliance qui vivent toujours sous la loi? Est-ce que vous savez ça? Dans nos églises, il y en a plein. Savez-vous ce que font les gens en Christ qui ne comprennent pas le plan du salut? Ils essayent de venir à l'église, de vivre en religiosité. Ils offrent à Dieu leurs œuvres mortes. Et à chaque fois qu'ils font quelque chose de mauvais, ils font un sacrifice pour se repentir. Comment est-ce qu'on diagnostique ça? Je vais vous donner un secret. Que moi-même, enfin, c'est un espèce de diagnostic que vous pouvez vous établir à vous-même. C'est lorsque tu tombes et que tu fais quelque chose et que tu pèches. Lorsque tu tombes dans le péché, la vitesse à laquelle tu vas te relever va montrer la compréhension que tu as de l'amour de Dieu. Je m'explique. On tombe dans le péché, et là, des fois, avant de revenir à Dieu, il se passe un an, un mois, 15 jours. On met longtemps parce qu'on est accablé par le péché. On dit, c'est comme si le péché est plus important que l'amour de Dieu à ton égard. Mais lorsque tu as une sainte compréhension de l'amour de Christ, tu tombes dans le péché, sauf que tu te relèves vite. Et tu fais, bon Seigneur, apprends-moi la prochaine fois à ne pas tomber. Est-ce que vous me suivez? Vous ne voulez pas rester à terre. Vous n'essayez pas de faire un sacrifice pour enlever votre culpabilité. Et si nous passons notre vie à mériter l'héritage, c'est comme si on renie le sacrifice de Jésus. Si notre motivation sur tout ce que l'on fait ne ressort pas d'une relation avec Dieu, tout ce qui n'a pas cette relation d'amour se transforme en œuvre morte. Je termine avec ceci. Si vous êtes dans ce schéma-là, arrêtez tout. Je vous demande d'arrêter. Et je vous demande de venir à la croix. Et je vous demande de regarder à Christ crucifié qui vous regarde. Et admirer le sourire du crucifié qui vous regarde en disant « J'ai tout accompli pour toi ». Quand on regarde Jésus, ce qui est extraordinaire avec Jésus, vous savez quoi? C'est que quand on lit cette parabole, Jésus a eu quelque part l'identité des deux fils, celui aîné et le fils prodigue. Parce que Jésus dans le ciel, c'était un fils avant toute chose. Il était serviteur, il était bon, il était juste et il est resté dans la présence de son Père. Et il s'est arraché des louanges, il s'est arraché de toute la gloire céleste, nous dit l'apôtre Paul, et il est venu sur terre devenir fils prodigue pour vous et moi. Et il est devenu pécheur, sale, puant, maudit, pendu au bois pour vous. Mais à la différence du fils prodigue qui a quitté la maison de son père en rébellion, Jésus l'a fait comme un fils soumis et obéissant pour son père, pour vous. Mes amis, avant toute chose, avant de devenir un serviteur, Jésus était un fils. du Dieu très haut. Qu'est-ce que vous allez être? Je vous demande de fermer les yeux, s'il vous plaît. Alléluia. 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 Ouais. Tu veux te mettre au piano? Seigneur, nous sommes là devant toi, Jésus. On ne veut pas être juste des serviteurs, des gens qui te servent, des gens qui vont à l'église, des gens qui veulent mériter. Seigneur, montre-nous en fait ton amour. Qu'il illumine les yeux de votre cœur, nous dit l'apôtre Paul. Seigneur, on veut qu'il y ait une révélation qui nous soit donnée de toi. Viens le faire, Seigneur. Jésus, fais-le maintenant, Seigneur. Alléluia, alléluia. Je veux juste, je ne veux pas vous faire avancer devant, je vous demande de garder les yeux fermés, par respect pour les personnes qui sont autour de nous, mais ce matin, ce qu'il y avait sur mon cœur, c'est peut-être qu'il y a des gens où vous êtes dans un schéma comme ça, un schéma, je dirais, structurel, qui comporte tout ce que je viens de dire, qui fait que dans votre vie, vous n'avez pas eu de reconnaissance. Dans votre vie, vous n'avez pas eu de valorisation. Et c'est comme si vous cherchez tout le temps à avoir l'approbation. Vous pensez plus aux autres qu'à vous. Vous essayez constamment à ce que les autres vous regardent. Vous essayez d'avoir presque les louanges, la reconnaissance des gens autour de vous. Et c'est comme si à l'intérieur de vous, maintenant, vous dites, mais Seigneur, c'est vrai, c'est en fait ça, c'est ce que je suis. Là, vous êtes tout doucement, mais tendrement, je vous demanderai de lever votre main. J'aimerais prier pour vous ce matin. Je vous demande tout le monde de garder vos yeux fermés. S'il y a des personnes, oui, j'ai vu ta main, mon frère. J'ai vu les mains qui se lèvent. S'il y a des personnes, vous êtes là, vous dites, mais en fait, je ne réalise pas tellement à quel point Dieu m'aime. Quelle est la chose laquelle vous connaissez le plus? Est-ce que vous connaissez plus l'amour que vous portez à Dieu? Ou est-ce que vous connaissez plus l'amour de Dieu qu'il vous porte? Ce qui n'est pas tellement important, ce n'est pas tellement ce que vous pouvez donner à Dieu, mais c'est ce que lui vous donne. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, tu es là, Jésus. Nous sommes là devant toi, oui. Alléluia, alléluia. Oh, éternel. Ouvre nos yeux sur ton amour, Jésus. Oh, éternel. Oh. Vivre en ta présence, c'est mon ensemble. Je vais vous demander de fermer vos yeux là où vous êtes. Et je vais vous demander de tendre les mains au ciel. Seigneur, maintenant, viens. Viens, Jésus, viens. Viens maintenant, papa. Allez, allez, fais-le, Seigneur. Perce mon cœur de ton amour, Jésus. De moi, Jésus. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Ah, ah.
que Dieu se dit sur vous. Je sens que Dieu est en train de dire des choses dans ton cœur que tu n'as jamais entendues.
Mon regard sur toi. Laissez-le chanter sur vous. Laissez-le chanter sur vous. Laissez-le vous charmer de son amour. Laissez-le chanter sur vous. Laissez-le.
Les recevons ce matin. Commencez à vous-même dire, Seigneur, une nouvelle révélation de toi.
Cherchez Dieu, cherchez-le. Ouvre mes yeux. Prenez de lui. Prenez.
À la fin de sa vie, lorsqu'il allait vers la croix, Jésus a dit, une dernière fois ses disciples, il les a rassemblés, c'était juste avant la Sainte Cène, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, je vous appelle mes amis, vous avez une chance incroyable, c'est que vous êtes amis de Dieu. Je voudrais qu'on termine ce culte avec ce chant qui dit, est-il vrai, est-ce que c'est mon incrédulité, mon sentiment de toujours devoir l'amour qu'on me porte, non, est-il vrai qu'il pense tout simplement à moi, que je suis un ami de Dieu? Je trouve que c'est un chant qu'on peut chanter presque à la fin du culte, lorsqu'on réalise ça, parce que c'est tellement fort. On peut prendre ensemble ami de Dieu, vous qui êtes des amis de Dieu. Soyez libres, ceux qui veulent louer, ceux qui veulent taper dans les mains, ceux qui veulent prier, ceux qui veulent se recueillir. Vous êtes ami de Dieu.
Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi.
Ensemble, chantons.
Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi.
Qui suis-je
pour que tu sois attentif à moi quand je t'appelle? Je suis ami de Dieu.
Je suis ami.
Quelle grâce! Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de grâce, oui, tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu.
Je suis ami.
Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi
une dernière fois.
Je suis ami de Dieu.
Je suis ami.
Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi.
Ok. Je crois qu'on peut dire « Je suis le Fils de Dieu ». Est-ce qu'on va chanter ça ? « Je suis le Fils de Dieu ». « Je suis la fille ». « Je suis la... » »« Il m'a choisi... » Plus fort ! Ensemble ! 1, 2, 3, 4 !«
Je suis la fille de Dieu. Je suis la fille de Dieu.
Je suis la fille de Dieu.
Je suis la fille de Dieu.
Car il m'a choisi.
Il m'a choisi.
Hallelujah.